N'est-ce pas?
Même les proverbes nous l'indiquent que nous avons beaucoup de complexes au sujet de l'argent. Nous lisons par exemple dans le proverbe 13, 7, tel fait le riche et n'a rien de tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Il y a beaucoup de riches qui font semblant de ne pas être riches. Ils veulent donner cette impression. Et il y a beaucoup de pauvres qui veulent donner l'impression d'être riches. Nous sommes gênés par notre manque d'argent et nous sommes gênés par notre abondance d'argent. En tout cas, nous sommes gênés. Mais Dieu n'est pas gêné. Il parle à l'homme et il lui parle de l'argent. Et il le parle souvent. C'est étonnant de voir combien de versets dans le livre de Proverbes concernent l'argent. Je crois que nous sommes gênés parce que notre manière de l'argent est trop palpable dans son expression de notre amour ou manque d'amour. Car qui dit gérer argent, qui dit libéralité ou générosité, dit amour. Et ma manière de dépenser mon argent montre d'une manière trop concrète où est mon cœur. Au moins, je parle pour moi-même. Donc, et en fait, l'argent est une source de beaucoup, beaucoup de problèmes. Les conseillers conjugaux nous disent que beaucoup de mariages s'arrêtent en divorce, se terminent en divorce à cause de l'argent. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de querelles, beaucoup d'angoisses, même de maladies qui viennent du stress à cause de l'argent. Il y a beaucoup de tricheries et de mensonges, de fraudes et d'oppression dans le monde, beaucoup d'oppression dans le monde à cause de l'argent. Il y a beaucoup de bien que certains font dans le monde et certains le font par l'argent. Et nous ne pouvons pas vivre sans l'argent. Donc, nous parlons aujourd'hui de quelque chose qui vous concerne tous, qui vous intéresse forcément, et dont le livre de Proverbes nous donne de la sagesse pour vivre intelligemment avec l'argent. Et donc nous allons aborder quatre points. Je ne sais pas si je vais faire tout ça aujourd'hui, mais tout ce qui est sur la feuille, on ne va pas traiter. Ça, c'est pour vous que vous pouvez aller plus loin en regardant les versets. Mais nous devons penser au sujet de l'argent avec sagesse. Nous devons gagner l'argent avec sagesse. Nous devons épargner l'argent avec sagesse. Et nous devons donner l'argent avec sagesse. Ok, on commence. On doit apprendre à penser au sujet de l'argent avec sagesse parce que parfois nos attitudes sont loin d'être celle de Dieu. La première chose que nous allons penser de plus en plus si nous sommes intelligents et si nous sommes sages, c'est que l'argent a de sérieuses limites. Je vais mettre mes nouvelles lunettes, excusez-moi, j'espère que ça ne vous gêne pas. Il faut que je les essaye pour voir si ça marche. Et donc, je vois mes notes mieux là. Ok, l'argent a de sérieuses limites. La chose la plus importante dans votre vie, c'est quoi? Je sais tout de suite pour moi, c'est échapper à la colère de Dieu pour mes péchés. C'est retrouver la faveur de celui qui m'a fait. Et les proverbes nous disent ceci dans le premier proverbe que vous avez là. Proverbe 11, 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est un peu mettre l'argent à sa bonne place. Parce que parfois, nous pensons trop. Nous pensons que l'argent peut faire trop. Mais il ne peut rien faire pour la chose la plus importante qui vous concerne. Deuxièmement, l'argent est très éphémère. Est-ce que vous avez remarqué ceci? Les proverbes en parlent. L'argent est difficile à gagner. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'argent est très facile à perdre. L'argent se perd par le vol, par l'accident, par la maladie, par un faux pas, par une mauvaise dépense, par un risque qu'on a pris, par un coup de folie. L'argent se perd très facilement. L'argent est éphémère. Ça ne dure pas et nous ne pouvons pas assurer que nous avons l'argent demain que nous avons gagné aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Dans mon église d'origine à Atlanta, il y avait un homme que j'appellerais riche. Il avait un business de construction de maisons florissante. Et il avait 70 employés. Il m'a dit une fois, il donnait environ 300 000 dollars aux œuvres chrétiennes chaque année. Lui. Ça, c'est ce qu'il donnait. Aujourd'hui, il n'a plus d'affaires, il n'a plus d'employés, il n'a pas de retraite. Il ne lui reste rien, sauf sa maison. La crise est venue par là. L'argent est éphémère. Ayons de bonnes attitudes vis-à-vis de l'argent. Donnez-lui sa bonne place. L'argent a de sérieuses limites. John D. Rockefeller était un des hommes les plus riches de l'histoire. Quand il est mort, quelqu'un a posé la question à un de ses assistants, combien d'argent est-ce que Monsieur Rockefeller a laissé? Et la réponse, tout. Il a tout laissé. Je trouve la réponse très bonne. Quel que soit le montant, il a tout laissé. Il n'a pu rien prendre avec lui. L'argent est éphémère. John Rockefeller n'a aucun argent aujourd'hui. Deuxièmement, l'argent est bien moins précieux pour vous qu'une vie proche de Dieu. Par exemple, dans le Proverbe 15-16, nous lisons: Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Et si vous lisez les magazines People, ces magazines parlent de gens qui ont beaucoup, mais aussi beaucoup de troubles, de divorces, de problèmes de drogue, de chute, de faillite, oui, toutes sortes de choses. L'argent est bien moins précieux que la sagesse. Est-ce que vous cherchez l'argent? Est-ce que vous cherchez la sagesse? Laquelle est-ce que vous cherchez activement le plus? Nous lisons dans le Proverbe 8 ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ces voies sont des voies agréables, alors que les voies du riche sans sagesse sont des voies pénibles, souvent. Mais les voies d'un homme sage, intelligent, qui sait vivre et qui sait craindre Dieu et vivre dans l'honnêteté, tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Je lisais récemment au sujet d'un homme qui travaille à la bourse. Il est trader et il brasse ses affaires. Et il dort chaque nuit avec trois téléphones à côté de son lit. Mais la Bible dit que pour celui qui vit sagement, tous ses sentiers sont paisibles. Il n'a pas l'inquiétude d'une chute de marché. La sagesse de vivre bien. L'argent est bien moins précieux qu'une vie juste devant Dieu. Proverbe 28, 6 dit: Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Certaines des personnes que j'estime le plus dans ma vie, c'est des gens que j'ai rencontrés en Afrique qui n'ont vraiment rien. Mais que j'ai trouvé des vieux pasteurs que je connais en Afrique de l'Ouest qui ont une sagesse, je n'exagère pas. Quand je pense à la sagesse, j'ai un ou deux pasteurs africains qui me viennent tout de suite et premièrement à l'esprit, avant toutes les personnes que j'ai connues de ma vie. Et ces hommes n'avaient rien, mais une vie paisible et bonne et bienfaisante. Je saute au point C. L'argent, ok, l'argent a de sérieuses limites et l'argent est moins précieux que beaucoup de choses. Que j'espère que Dieu va vous amener à chercher plus comme moi. Mais l'argent est quand même nécessaire. Ne soyons pas fous. L'argent est nécessaire. Je ne vais pas vous lire les versets, mais toute la Bible nous dit, comme les proverbes, qu'on a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de nos familles, pour laisser un héritage pour le futur de nos enfants. La Bible parle de cela. L'argent est nécessaire pour secourir et aider les nécessiteux. L'argent est nécessaire pour apporter le précieux trésor de l'Évangile au monde. Nous avons besoin de l'argent. Et l'argent peut être un bon instrument, une bonne chose pour celui qui sait l'utiliser à bon escient. D. Les extrêmes de la richesse et de la pauvreté ne sont ni à envier ni à rechercher, car ils comportent des pièges particuliers. Écoutez bien ce verset, parce que ce verset est le verset le plus important, ou le passage, dans le livre de sagesse au sujet de l'argent. Je te demande deux choses, dit l'auteur, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, écoutez bien, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. C'est une prière. Ô Seigneur, je ne veux pas être riche, ne m'accorde pas ça. Ni pauvre. Et il dit pourquoi? Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, si je suis riche, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Comme la grosse majorité des riches, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, je ne devienne voleur et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il y a donc des pièges extrêmes aux deux extrêmes. Il y a des tentations et des ennuis dans la vie du pauvre et la vie du riche qui ne sont pas dans la vie de la personne qui est dans l'état moyen. Ni riche, ni pauvre. La sagesse vous dit, cherchez, chers amis, l'état moyen. Il se peut que Dieu vous rende riche et que vous soyez obligé de gérer ça. Il se peut que Dieu vous rende pauvre et que vous soyez obligé de gérer ça. Mais la prière et la recherche du chrétien, c'est l'état moyen. Ni riche, ni pauvre. Vous pouvez vous demander, mais quels sont ces ennuis du riche? Je ne vois pas de problème pour moi. Premièrement, beaucoup de gens flattent l'homme riche et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Dès que vous êtes riche, vous aurez beaucoup de gens à la porte. Demandez à quelqu'un de riche si vous en connaissez. Vous avez tout de suite des parents éloignés dont vous ne saviez pas l'existence qui viennent. Vous avez des gens qui ont toutes sortes de besoins, de demandes, de projets, d'idées et qui viennent à votre porte. Deuxièmement, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la menace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière un peu jolie de dire que qui est l'objet des chantages, des extorsions pour tirer de l'argent? C'est pas le pauvre, lui, il n'entend pas de telles menaces. C'est l'homme riche. C'est l'homme riche qui doit, sa richesse doit servir de rançon pour sa vie. Il doit souvent payer pour se sauver, pour se protéger. Qui dépense l'argent pour mettre toutes sortes d'appareils de sécurité autour de sa maison? Le pauvre n'en a pas besoin. C'est le riche. La richesse apporte des ennuis. Ensuite, nous avons vu dans le passage de tout à l'heure que l'auteur de ce proverbe avait peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Et Jésus a bien dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en tant que quelqu'un qui a essayé de faire part aux gens de l'Évangile, je sais, et nous le vivons même maintenant dans cette implantation d'église, nous le savons que les gens aisés n'ont rien à faire avec la question, est-ce que j'ai un créateur? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il me demande? Parce qu'ils sont bien. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Il se croit suffisant. Proverbe 28, 11 dit, l'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. C'est intéressant que les riches deviennent souvent arrogants. Nous voyons ça dans la campagne d'élection américaine en ce moment. Cet homme riche, Donald Trump, il parle avec une fierté incroyable, une arrogance. Il se réfère constamment à ses succès. Moi, l'homme riche se croit sage. Celui qui se confie dans les richesses, dit le proverbe, tombera. Mais les justes verdiront comme le foyer. On est durement tenté quand on a beaucoup d'argent. C'est très difficile de ne pas mettre ma sécurité dans mon compte bancaire. De ne pas dire, je suis bien, parce que j'ai tant. Je dors bien, non pas parce que j'apprends à me confier en Dieu et ce qu'il est, sa fidélité, mais parce que j'ai regardé le relevé de compte avant de me coucher. Et j'ai dormi tranquillement. C'est un piège, n'est-ce pas? Il y a des pièges, des tentations, des ennuis, de ne plus penser aux autres, d'être méprisant, de regarder les pauvres comme des personnes qui ne valent rien. Tout cela et beaucoup plus est un problème pour le riche. De devenir de plus en plus cupide, axé sur l'argent, centré sur lui-même, vivant dans un monde de plaisir, comme cette fille du riche Onassis. Christine Onassis était la fille de Jacqueline Kennedy, la veuve de John Kennedy, qui s'est remariée après la mort du président américain à un homme très riche qui s'appelait Onassis. Alors, la fille de Jacqueline Kennedy, Christine Kennedy, à la mort de Jacqueline Kennedy, Onassis, a hérité un revenu d'1 million de dollars par semaine. Là, on parle de riche. Un jour, il lui manquait du Coca-Cola et elle a envoyé un jet Elle devait être dans un endroit isolé, un jet privé pour aller chercher quelques cases de Coca-Cola pour elle. Et ça, c'est les pièges, les tentations du riche, n'est-ce pas? De vivre comme si il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de besoin, et de vivre d'une manière ridicule et injuste dans le monde. Mais la pauvreté a aussi ses ennuis et ses pièges. Et la Bible en parle. Par exemple, la Bible nous dit, le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Les pauvres, si vous tombez dans la pauvreté, vous êtes perdu de vue pour beaucoup de gens qui pensaient à vous avant. Et qui, pour vous, pour eux, vous n'existez plus. Même si vous étiez un ami avant. Il y a aussi l'oppression que subissent les pauvres. Tous les pauvres. Il y a une oppression par même le système. C'est presque impossible d'en sortir. Et je crains que nous en faisons tous partie. Mais la Bible dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si vous tombez dans la pauvreté, vous devenez esclave. Vous tombez dans une dépendance de ceux qui ont de l'argent, et c'est une situation horrible à vivre. De savoir qu'on est dans les dettes jusqu'au cou et de ne pas avoir un moyen de s'en sortir. Il y a aussi cette tentation, comme nous avons vu, que de devenir voleur. Et oui, c'est vrai ce que disent les politiciens, que la pauvreté engendre le crime. Les gens sont poussés, parce qu'ils sont pécheurs, ils sont poussés au crime par la pauvreté. Et c'est vraiment dans les quartiers pauvres. C'est une vraie tentation, un vrai piège de devenir trafiqueur de drogue, de devenir braqueur, de devenir petit délinquant. Ou même à une autre échelle, simplement de devenir un peu tricheur avec les impôts, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et de mille petites façons d'avoir des tentations, des pièges par manque d'argent. Il est possible que Dieu vous mette dans ces situations et là, vous devez relever le défi et vivre dans la foi, dans la confiance avec le Seigneur. Mais ce n'est pas à chercher. OK. Donc, nous terminons cette partie. On va parler juste un moment de gagner l'argent avec sagesse. Et on verra, nous avons quelques minutes quand même. Gagner de l'argent avec sagesse. D'abord, la manière sage et juste de gagner de l'argent, c'est de travailler et ne pas être paresseux. Proverbe 10, 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Tenez le bien, mais les mains des diligents s'enrichissent. Il y a un problème parmi les jeunes aujourd'hui, c'est la paresse. La paresse. Autrefois, il y avait une valeur de travail dans la culture occidentale, et cela se perd, et les gens espèrent et veulent avoir quelque chose pour rien. En faisant le moins de travail possible, je vous dis que ce proverbe et juste, vous allez tout droit vers la pauvreté de cette manière. Deuxièmement, pour gagner de l'argent avec sagesse, il faut être réfléchi et prévoyant. Proverbe 21:5, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment, sans plan, connaîtra la disette. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et puis, pour gagner avec sagesse, il faut dépenser avec maîtrise. Il ne faut pas être dépensière et fou. Proverbe 21, 17. La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Celui qui aime bien boire et bien manger ne deviendra jamais riche. Je trouve fascinant qu'il y ait un proverbe comme ça dans la Bible, un avertissement. Et puis, si vous voulez gagner avec sagesse, gardez une bonne comptabilité sur ce que vous avez. Ça aussi, c'est une valeur qui se perd. Connais bien l'état de ton bétail et porte l'attention sur tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle, ainsi de suite. Connais bien l'état de ton bétail, c'est tenir une bonne comptabilité de vos acquis. Et donc cela est important pour nous de savoir ce que nous avons, ce dont il nous faut dans l'avenir, et d'être prévoyant, d'être réfléchi et de ne pas dépenser comme ça de manière sans intelligence. Il faut aussi éviter certaines manières folles et injustes de gagner de l'argent parce que si vous tentez cela, vous allez probablement aller dans le mur. Par exemple, des combines pour s'enrichir rapidement. Vous en connaissez? Il y en avait dans l'Antiquité parce que le proverbe nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Est-ce que vous savez que Dieu, le Créateur, a établi un lien naturel entre travail et argent? Et rien ne peut briser cette loi. Je sais qu'il y a des exceptions, mais des exceptions qui établissent plutôt la règle. La vie, ordinairement, va toujours être comme ça. C'est comme vous ne pouvez pas sauter d'un bâtiment et dire que vous allez aller à l'encontre de la loi de la gravité. Vous allez plutôt illustrer la loi de la gravité parce que vous allez tomber, n'est-ce pas? Et essayer de gagner l'argent par la loterie en jouant la bourse par des stratèges de pyramide, en répondant à ces appels que vous recevez dans vos emails qui disent gagner des milliers en restant à la maison. On nous sollicite avec des ruses pour gagner de l'argent sans travail, pour briser le lien entre travail et argent, et ça ne va pas se faire. Donc décidez maintenant que vous allez vivre sagement, que vous allez amasser peu à peu, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Bien sûr, par le mensonge, par des pratiques commerciales injustes, les proverbes parlent de tout cela, mais je ne vais pas vous lire les versets maintenant. Ok, gagner de l'argent avec sagesse, mais épargner de l'argent avec sagesse aussi. Je vous donne un seul verset, c'est le proverbe 21, 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Vous avez compris? Il y a de l'épargne. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, parce qu'il n'y avait pas de banque à l'époque. Il y avait de l'épargne chez lui. Mais, le proverbe continue, l'homme insensé les a engloutis. Donc, la Bible nous enseigne et nous pousse dans ce verset à épargner, à avoir quelque chose mis de côté. Il y a des trésors et de l'huile dans la demeure du sage. Et nous aussi, nous devons faire ainsi. Ok, je termine avec le fait de donner avec sagesse et je vais juste résumer ce qui est là. donner avec sagesse. Je pense que le passage où nous devons aller maintenant sort des proverbes parce que c'est l'évangile toujours qui va nous amener plus loin que juste la sagesse typique. Et nous lisons ceci dans 2 Corinthiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Contexte. Il y avait des chrétiens en Israël qui étaient dans la disette, dans la famine, persécutés. Et Paul fait appel à l'église de Corinthe d'imiter les églises de Macédoine qui ont envoyé de l'argent en Israël pour aider les chrétiens pauvres. Donc il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie, ok, écoutez bien, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Donc ils ont beaucoup donné pour les chrétiens pauvres et cela est venu de deux choses. Leur joie débordante dans l'évangile et leur pauvreté profonde. C'est étonnant. Ils ont, je l'atteste, parce qu'on ne va pas me croire si je n'appuie pas, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ce qui n'est pas habituel et Dieu ne vous demande pas habituellement de donner au-delà de vos moyens. Le passage continue et dit que je ne vous demande pas de vous appauvrir pour aider l'autre. Ça, c'est juste changer qui est pauvre. Ça n'avance rien. D'accord? Mais il y a des moments où on donne au-delà de ses moyens. Et ces personnes l'ont fait. Nous demandons avec grâce, grande instance, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur d'abord, puis à nous, par la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Je vois ici que si nous allons donner sagement, ça doit venir d'un cœur qui se croit riche. De leur joie débordante, qui dit déborder, veut dire riche, veut dire beaucoup. Sachant que nous sommes incroyablement riches, chers amis, en Christ. Avec une richesse qui fait que les richesses de ce monde sont rien, franchement, la richesse que nous aurons un jour. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que nous avons besoin de bénir d'autres. C'est là que vient la libéralité, n'est-ce pas? La générosité. Plus l'évangile nous donne ce sens d'être béni, d'être au large, d'être en sécurité, parce que Dieu va prendre soin de nous, abondamment, fidèlement, sûrement, plus nous allons donner aux autres. Ça, c'est le secret et la clé. Et aussi, le fait de regarder le Seigneur Jésus, et ce passage continue pour dire, « Car vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre. » Afin de nous enrichir par sa pauvreté. À la croix de Christ, Christ était devenu complètement démuni. Il a tout donné, son rang, sa gloire, sa réputation, sa santé humaine, il a tout donné afin que par sa pauvreté et ses souffrances, nous soyons sauvés et enrichis. Et quand nous vivons avec cette réalité de jour en jour, il était comme ça, il a fait comme ça, c'est vrai ça, que le Dieu riche s'est fait pauvre pour moi, eh bien, nous admirons ça tellement. C'est comme un aimant qui nous attire à vouloir être de même, n'est-ce pas? Et nous envisageons le bonheur de donner. Quand Paul cite le Seigneur, il dit « Il est plus béni de donner que de recevoir », il n'est pas en train de blaguer. Il y a quelque chose de formidable dans le fait d'avoir le privilège de donner à quelqu'un d'autre et de changer sa situation. de le sauver, de le secourir, même aux dépens de mes biens. Il y a quelque chose de magnifique qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Vous pouvez accumuler tout ce que vous voulez et vous faites tous les plaisirs que vous voulez. Ça n'a rien à comparer avec le privilège de sauver quelqu'un en donnant, de secourir quelqu'un. Donc, ce sont des choses qui nous aide à donner, ça vient tout droit de l'évangile. Je finis juste en vous disant que oui, nous devons faire attention à la manière dont nous donnons, parce qu'on peut faire des fautes. Il y a des personnes à qui nous ne devons pas donner. L'apôtre dit que nous vous avons affirmé que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Quand nous étions en Afrique, nous avions souvent des gens à la porte en demandant de l'argent. Et souvent, comme je ne pouvais pas savoir si c'était réel ou non le besoin, je leur disais, ok, je vous donne du travail, je trouvais quelque chose à la maison, quelque chose qu'ils pouvaient faire pour moi, et je vous paierai pour si vous faites telle chose pour moi. Et souvent, tout de suite, la personne, ah non. La personne ne voulait rien faire, même si c'est une tâche simple. Et je disais, bon, c'est clair au moins. Et d'autres fois, le besoin était réel, et la personne était prête à faire un peu quelque chose. Et j'étais très content de lui donner. Et on donnait souvent. Souvent. Il y a des cibles prioritaires pour la générosité. D'abord, votre famille physique, la Bible dit, à Timothée 5. Celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille est pire qu'un païen, dit la Bible. Et deuxièmement, votre famille spirituelle, la Bible dit aussi que s'il y a des gens qui investissent en vous spirituellement, vous devez investir en eux matériellement. Parce que, et là je peux vous dire, parce que vous ne me soutenez pas, mon salaire vient d'ailleurs, donc je suis libre de vous dire, il est important dans l'avenir, quand vous aurez un pasteur soutenu par votre église, que vous le soutenez, parce que sinon il ne peut pas continuer à vous servir spirituellement. Et puis, il y a aussi donc ceux qui sont dans la nécessité, les pauvres. Et on veut leur donner avec respect, avec un engagement de notre personne, si nous pouvons, et pas simplement les mieux de donner avec un contact personnel que d'envoyer par la poste. N'est-ce pas? Parfois, on doit faire les deux, mais si on peut, le contact personnel est important, dit la Bible. Je ne peux pas vous lire tous les versets, mais je prends ça pour moi, et je suis vraiment, ça m'interpelle beaucoup. Et la Bible dit que nous devons donner aussi avec promptitude quand l'opportunité est là. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Donc, la Bible dit que quand la situation est réelle et présente, ne repoussez pas. Et je dirais aussi qu'il faudrait essayer de ne pas rester dans des intentions vagues, mais prendre des engagements chiffrés. Sinon, on n'accomplit jamais. De vous mettre avec votre conjoint, votre conjointe, et dire qu'est-ce que nous allons donner cette année. Vous fixez, on fixe des buts, on fixe des pourcentages, et on évalue au fur et à mesure. Nous faisons ça dans notre foyer. Nous fixons un pourcentage de nos biens comme point de départ, et nous savons cette année nous allons donner ce pourcentage. Et puis, quand il y a d'autres besoins qui viennent et d'autres opportunités aussi. Et nous savons que nous devons faire mieux chaque année. La dernière chose, c'est que la Bible vous dit que vous devez donner des prémices de vos revenus au Seigneur. C'est-à-dire, la manière sage et chrétienne de donner, c'est de donner d'abord à Dieu, et puis dépenser le reste. Non pas dépenser sur soi et donner ce qui reste au Seigneur ou aux autres. Donc toutes ces choses, et bien d'autres sont dans le livre de Proverbes, et tout cela est surtout la manifestation et la manière sage de vivre un cœur touché par l'Évangile, par le Dieu infiniment généreux que nous voulons rassembler. Ok, nous allons prier, chanter d'abord et prier ensuite. Nous allons chanter le 337, Marchons avec joie. Ce culte. Éternel Dieu, tu es riche, riche en bonté, tu donnes et donnes et donnes. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Et nous apprenons de toi le bonheur d'être généreux. Et nous te confessons, Seigneur, que souvent nous ne l'avons pas été et nous avons besoin de ton pardon. Nous avons pensé qu'à nous-mêmes, nous avons tiré le cercle étroit au sujet de nos propres plaisirs et nous avons oublié les autres. C'est moche, Seigneur, c'est désagréable à toi, mais c'est ce que nous avons toujours été. Nous prions que tu nous délivres de cela. Seigneur, aide-nous à être confiants en toi et ta fidélité pour souvenir à nos besoins. Et rappelle-nous que tes richesses en Christ sont tellement immenses que si nous perdons tout ce que nous avons sur la terre, tout notre argent, nous n'avons presque rien perdu par rapport à ce qu'il nous reste. Béni sois-tu. Amen.